Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Fanny Cohen-Moreau et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Cédric Châtelus et Nicolas Depagrave, pardon si j'ai mal prononcé. La gourmandise ce matin dénote une absurdité si féroce qu'elle en devient poétique. Il s'agit de la superstition du compositeur Arnold Schönberg concernant le nombre 13. Le musicien né à Vienne le vendredi 13 septembre 1874 passa sa vie à fuir l'association des chiffres 1 et 3, notamment en numérotant ses 13e mesures ou pages de partition d'un 12 bis conjuratoire. Il aurait aussi eu peur de ne pas dépasser les 76 ans, 7 et 6 donnant 13. Malgré toutes ses précautions, il mourut le vendredi 13 juillet 1951 à l'âge exact de 76 ans et paraît-il à minuit moins 13. Notre apothicaire de l'âme a grandi au gré des mutations de son père, pilote dans l'armée de l'air entre Metz, Sarcelles, Toulouse, Dakar ou Tahiti. Dès l'âge de 10 ans, il se met à dessiner des petits albums et publie plus tard des dessins dans des fanzines tahitiens. Il commence sa carrière dans la revue Pionnier, rejoint brièvement Pilote, puis est adoubé par Gottlieb qui le fait entrer à Flûte Glaciale, magazine dont il devient vite l'un des piliers. En tant que pilier qui se respecte, notre invité maîtrise admirablement le détournement, le décalage et l'humour absurde, façonnant grâce à cela des bandes dessinées réjouissante, comme le romantisme est absolu, la vie d'Einstein, la route vers l'enfer ou l'encyclopédie des bébés, et je suis évidemment loin de tout citer. Le cerveau de cet adepte de la dérision a cependant une double vie. Après le baccalauréat, lorsque son propriétaire s'inscrit à l'université expérimentale de Vincennes pour y suivre des cours de bande dessinée, il découvre l'intelligence artificielle et devient enseignant et chercheur dans cette discipline. Ancien membre du laboratoire informatique avancé de Saint-Denis, le curieux a pris sa retraite en 2012 mais continue ses recherches de chez lui. Signalons aussi que ce scientifique sérieux et inventeur graphique débridé est l'un des remèdes à la mélancolie de Gustave Carverne, car il est rare d'interviewer directement un remède dans cette émission. Bonjour Daniel Gossens.
Bonjour.
Daniel Gossens, vous dont l'un des albums s'intitule « Adieu mélancolie », eh bien vous, quel est votre rapport à la mélancolie? Avez-vous réussi à la quitter?
Oui, enfin bon, j'ai pas vraiment un tempérament mélancolique, j'ai plutôt un tempérament
inquiet.
Inquiet, voilà. Qui va de l'inquiétude à l'angoisse. Mais disons que, enfin, pour moi, le tempérament, c'est ce qui s'installe quand on est plus sollicité par le réel, quoi. Et chez moi, c'est ça. Je suis jamais tranquille. Je suis préoccupé au minimum. Et ça a toujours été le cas, donc c'est clair et net chez moi. Je vois qu'il y a on n'est pas égaux là-dessus. Il y a des gens qui, quand ils sont plus sollicités par le monde réel, sont mélancoliques, par exemple, mais sont aussi en colère. Hein. J'ai connu des gens qui avaient un tempérament colérique, et donc sont toujours en rébellion, en revendication, en colère. Et ça doit être dur. Ça doit être dur à vivre.
Vous vous sentez sollicité par le réel, Daniel Gossens, ou au contraire, vous faites en sorte de ne pas l'être trop ?
Dans la BD, dans la recherche, oui, on s'écarte un petit peu du réel. Et c'est pas trop difficile à maîtriser ou à gérer, finalement, l'inquiétude ou la préoccupation. Tant qu'il n'y a rien d'angoissant, disons, on maîtrise. Voilà, je sais pas trop.
Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant vos interviews. Ouais. Daniel Gossens, vous dites « Je suis allé au catéchisme jusqu'à ma première communion. Je me souviens avoir ressenti une grande joie en recevant l'hostie parce qu'on m'avait dit que j'allais ressentir une grande joie et que ça marchait. Je ressentais effectivement une grande joie, ce qui me donnait une grande joie. Tout ce qui marche bien me procure une grande joie. » Alors, on ne sait jamais si vous rigolez ou pas dans vos interviews puisque vous êtes quand même un peu insultant de la facétie.
Mais quand j'avais 10 ans et que je suis allé chercher mon hostie, non, ça a marché. Ça a vraiment fonctionné comme ça. Je le décris comme ça après coup, quoi.
Mais tout ce qui fonctionne vous procure une grande joie. J'imagine en tant que scientifique, quand quelque chose fonctionne,
c'est quand même
une gratification immédiate.
Oui, absolument. Oui. Mais ça, c'est avec le recul, ça m'amuse de voir que la simple suggestion peut faire d'un individu un croyant profond. Par la suite, un non-croyant, puisque je ne suis pas croyant maintenant.
Mais vous étiez croyant ?
À 10 ans, oui.
Moi, je pensais que
j'étais vampire. J'ai fait ma communion, j'étais en aube, j'avais un missel, enfin, etc. quoi. Maintenant, j'ai du mal à imaginer ce que peut être un créateur d'univers qui rêverait de nous voir tous avec des aubes et des missels. Ça me semble incongru.
Mais c'est amusant, Daniel Gossens, puisque vous êtes beaucoup penché justement sur la question des démiurges et les démiurges autant le Messie que justement vos deux personnages très Bouvard et Pécuchet, Georges et Louis, qui veulent toujours réécrire toute l'histoire. Et...
Ouais, c'est... Louis, c'est le petit donc, c'est quelqu'un qui, avec le recul, ce dont je me rends compte, c'est que c'est un illuminé. C'est quelqu'un qui est fermé sur ses compréhensions du monde et qui est très enthousiaste. En étant fermé comme ça sur des compréhensions limitées, ça lui permet d'avoir une ardeur décuplée.
Il est très découragé aussi, assez régulièrement.
Ouais, et en tout cas, il est que affectif, hein, on pourrait dire. C'est une sorte de bombe affective.
Il vous ressemble ?
Et ça, c'est bien, ça. Il me ressemble, non, parce que moi, je contrôle plus. Je sais qu'il est fou. Donc, je suis un observateur, je suis un lecteur, ouais. Mais c'est une source inépuisable, ça, pour l'humour. Quelqu'un qui est fermé sur une compréhension restreinte.
On va en reparler justement de ce qui est du registre de la folie ou du registre du génie. J'annonce le sommaire des réjouissances. Dans quelques instants, Daniel Gossens, vous allez convoquer Albert Marquet, Jean-Baptiste Secheret, Blutch, Franquin Moebius, Gary Larson, La Compréhension, Jean-Yann, Une Java Bleue, Carlos Barbosa Lima et Des Randonnées en Montagne, juste après le morceau Bluff de Bonnie Banane dans la programmation musicale de France Inter.
Laisse-moi te consoler, laisse-moi te rassurer, laisse-moi t'encourager, c'est bon pour la santé. Tant que t'es sur ta lancée, tu peux pas t'arrêter si ce n'est de penser. On doit tous perdre pour gagner, yaka yaka piocher si tu peux plus jouer. Pas de panique, pas de panique, pas de panique.
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de Daniel Gossens.
Il y a une reconnaissance sur mon travail. Mes histoires plaisent. J'ai écrit des scénarios toute ma vie. Et la reconnaissance du public était là. Mais en même temps, j'ai jamais été vraiment satisfait. J'ai un grand plaisir à écrire. Il y a toujours un petit part de doute, hein, de souffrance. Mais ce qui est terrible, c'est après, quand tout est fini, que je fais un bilan sur mon travail. J'aurais aimé être quelqu'un qui émeut, vous voyez, dont l'œuvre émeut. Pas moi, mais l'œuvre, hein, qui a du sens.
C'est Jean Giraud.
Oui, c'est Moebius, oui.
Ouais, vous l'avez reconnu tout de suite dans À Voix Nue sur France Culture en 2005. Daniel ouais. Gossens, vous avez choisi plusieurs artistes visuels, peintres, dessinateurs. On commence par l'auteur qui a dessiné Blueberry. Je dis l'auteur, mais il faisait tout. Et entre mille autres choses, imaginez l'univers graphique du film Alien de Ridley Scott, Moebius. Est-ce que vous l'avez rencontré à l'université expérimentale de Vincennes où il enseignait?
Non, il enseignait avec Mézières, et l'année où je suis arrivé, ils étaient déjà partis, et on ne l'avait pas rappelé. Donc je l'ai raté là, mais je l'ai rencontré par la suite.
Et quel est votre souvenir de lui?
En fait, je l'ai surtout croisé, je le voyais au grand jury du prix d'Angoulême, par exemple. Mais en fait... Giraud Moebius, pour nous les dessinateurs, c'est un type qui a construit une montagne gigantesque dans laquelle on joue. Mais c'est extraordinaire, quoi. C'est un type qui a fait que on avait envie de faire de la bande dessinée. Donc quand il est mort, moi ça m'a fait un coup. Il y avait quelque chose d'énorme qui disparaissait.
Vous avez choisi, Daniel Gossens, un autre dessinateur qui d'ailleurs vous classe parmi ses influences et qui est venu dans l'émission, c'est Bloch. Et comme Moebius, il y a quelque chose de très cinématographique chez lui. Et ça me frappe puisque vous, tous vos albums, Daniel Gossens, sont justement ponctués de références cinématographiques, pas que cinématographiques, mais beaucoup.
Oui, c'est vrai, oui. Mais alors moi, c'est pour la dérision.
Oui.
Moebius, lui, il a participé à des grandes aventures américaines.
Dune.
Ouais, Tron, Dune et tout ça. Comment dire, le point commun, c'est pas le cinéma, hein, entre Bloch, Moebius.
Bien sûr, mais c'était pour faire une transition.
Oui, absolument, oui, tout à fait. Ouais. C'est le dessin. Alors vraiment, ça, c'est des gens pas sur le même registre. Bloch, c'est un dessinateur beaucoup plus instinctif, beaucoup plus acrobatique, je trouve, que Moebius, qui quand même construit Moebius. Et ils me fascinent tous. Mais vraiment, ça, c'est deux pointures. Hein. Bloch et Moebius, c'est deux pointures. Il y a Franquin aussi.
Et justement, Franquin, bon, on connaît son Spirou et Fantasio, il y a Gaston, évidemment, il y a le Marsupilami, mais Franquin, il y a aussi toute une œuvre très noire qui lui a été inspirée par une dépression, je pense à la série ouais. Idées Noires.
Les Idées Noires, ouais, puis il a fait aussi beaucoup de petits monstres, hein, ça apparaît pas dans les BD, s'il crobardait ça, ils sont fabuleux ces monstres. Donc c'est vraiment encore une passion du dessin. Franquin, il a une apparence de quelqu'un de très simple qui a fait une bande dessinée sympathique avec un feignant de bureau qui a un gros nez rond, etc. Mais en fait, derrière cette apparence superficielle, si je puis dire, il y a un monstre du dessin et ça se voit puisque tous les dessinateurs, enfin une énorme quantité de dessinateurs le citent quand ils parlent du dessin. Et franchement, ça, je sais pas si le grand public perçoit à quel point ces gens sont des géants, des monstres du graphisme. Donc Franquin, voilà, qui apparemment n'a rien à voir avec Moebius, ni avec Bloch. C'est trois pointures qui se ressemblent pas, mais chacun qui est très très haut dans sa direction.
Mais justement,
les phares, quoi, on pourrait dire.
Oui. Daniel Gossens, hors antenne, je vous demandais comment vous procédiez pour faire vos albums. Et alors, vous me décriviez un processus assez élaboré et surtout qui prend énormément de temps. Là, on continue de voguer le long de votre panthéon pictural avec le peintre Albert Marquet que vous avez choisi. Et en fait, je me demande, en pensant à ça, où est la limite entre dessinateur et peintre? Puisque Marquet, on pourrait s'imaginer parfois que c'est sans paix avec de la couleur.
Oui, c'est vrai. Ouais. Alors Marquet, moi, il m'intéresse parce qu'il est simple. Il a des images très belles, frappantes, des petits spectacles, ces images spectaculaires. Et simple, il n'y a pas de mystère Marquet. Hein. On voit qu'il a juste voulu, à un moment, représenter une lumière, de l'eau, etc. Et ça marche très fort, alors qu'il a énormément simplifié la scène. Il n'y a presque plus rien dans la scène. Et ça marche mieux que si on avait une photo, enfin infiniment mieux. Je me souviens d'un tableau où il peint juste la plage et il fait se succéder les couleurs dont on se rappelle tous sur la plage, c'est-à-dire le jaune ocre du sable, puis il devient un petit peu marron, violet, puis quand il y a l'eau, c'est un peu blanc, bleuté, verdâtre, puis vert très clair, vert jaune, puis ensuite rebleu, puis violet, puis le ciel. Voilà, rien que cette petite idée, avoir réussi à sortir du réel une petite idée de succession de couleurs, je trouve ça fabuleux, formidable. Donc ça, c'est Marquet. Et le lien avec la BD, c'est... j'aurais rêvé... Enfin, tout le monde, j'imagine, rêverait d'avoir des images aussi spectaculaires. Et donc, j'ai compris pourquoi c'était pas possible. Voilà. Marquet ne pourrait pas redessiner une succession de tableaux d'une même scène sur des points de vue différents. Il a choisi un point de vue, il a le motif devant lui, et il faut avoir le motif devant soi pour faire des tableaux... comme Albert Marquet, on peut pas inventer. Voilà. On peut pas inventer le réel. Et donc en BD, ben c'est perdu. On pourra jamais avoir des cases, sauf à faire une succession de tableaux. Mais si on veut faire de la narration, la case spectaculaire sera belle, et puis la case d'après, ça sera presque la même chose, mais les personnages vont avancer un peu, et ça donnera rien du tout.
Vous avez choisi, Daniel Gossens, un autre vivant, le peintre, graveur, éditeur et imprimeur Jean-Baptiste Sécheret, qui fait des paysage magnifique.
Ah oui, donc vous avez vu aussi les... Oui. C'est dommage qu'on ne puisse pas les montrer à la radio.
Oui, mais on imagine, c'est encore mieux.
Sécheret, ouais.
Non, mais allez voir sur Internet,
d'accord.
Chers auditeurs confinés.
Il y a des images fabuleuses de Sécheret, ouais. Ouais. Et qui marchent bien, hein. J'ai vu qu'il avait des prix de vente incroyables.
Ah oui ?
Ouais.
On va se renseigner, on mène l'enquête. Daniel Gossens, l'auteur de votre sérum littéraire, il est aussi dessinateur, puisque vous avez choisi l'univers impitoyable de Gary Larson, qui reprend des dessins diffusés dans la presse dans les années 80. C'est drôle, absurde, cynique, il y a beaucoup d'animaux qui parlent, et on lui doit notamment l'invention de quelques mots, dont anatidaéophobie, pour désigner la peur que quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe.
Oui. D'accord. Ça, en plus, c'est marrant parce que il y avait une sorte de tradition aux États-Unis. Il y a un dessinateur qui s'appelle Kliban qui faisait des canards avant lui. Et donc, Larson a repris un petit peu cet univers des canards bizarres qui fument, qui intimident les humains.
Vous avez apporté le livre.
Oui, j'ai apporté le
livre. Avec la préface de Cavana.
Voilà, l'univers impitoyable de Gary Larson. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on lit un extrait?
Ah bah, si vous voulez, mais alors ça va être un travail d'imagination pour les
justement,
éditeurs.
J'ai
vous
choisi...
allez décrire les cases.
Voilà, j'ai choisi des dessins pour lesquels la légende suffit.
Oui. On vous écoute nous décrire une bande dessinée de Gary Larson.
Voilà, alors voilà, quelques 5 dessins extraits de l'univers impitoyable de Gary Larson. Alors, le premier, c'est donc on voit un cosmonaute sur une planète inconnue et il est en train de lire une lettre qui dit cher Henri, où étais-tu passé? On t'a attendu longtemps, longtemps, et finalement on a décidé de... Puis on voit la fusée qui s'en va dans le ciel. Alors un deuxième, c'est des cow-boys qui sont en train de pendre quelqu'un. Dans l'excitation générale, il y a l'arme, le cow-boy à pendre, il est déjà sur son cheval, il y a la branche au-dessus de lui. Puis on voit une petite bonne femme, comme dans les westerns, avec ses chapeaux à fanfreluche, qui dit « Décidément, on ne changera jamais les hommes. Heureusement que j'ai pensé à la corde. » Ah, bon. Un troisième. Là, c'est deux orques dans un bassin de démonstration... avec une sorte de staff maître-nageur en haut d'un plongeoir qui tient un poisson pour qu'il saute, les orques, devant le public. Et donc, il y a un des orques qui dit à l'autre « Arrends mon cul, je veux tout l'eau. » Ensuite, un quatrième.
Allez-y.
Alors là, c'est... chez les trois petits cochons, on voit un couple qui est à la fenêtre en train de parler au grand méchant loup. Et il dit « Écoutez, nous appelons Georges et Harriet Miller. Nous sommes juste passés chez les trois petits cochons pour le café. Nous sortons tout de suite. Nous ne voulons pas d'histoire. » Et le dernier. Alors là, c'est un taureau qui vient de débouler dans l'arène, avec le toréador, là, et puis le public. Et puis il y a ses copains taureaux derrière les barrières qui lui crient « Le chiffon, Larry, fonce sur le chiffon !»
Daniel Gossens, je pense à l'absurde.
Ouais.
Et je pense à vos recherches en intelligence artificielle. Et finalement, quand on sera tous envahis par des intelligences artificielles, la seule façon de savoir si c'est un humain ou une intelligence artificielle, c'est de savoir s'il comprend l'absurde. Puisqu'un ordinateur ne comprend pas
absolument,
l'absurde.
Absolument, ouais, absolument. Alors ça, c'est vraiment le dernier niveau. Si vous saviez à quel point on balbutie pour essayer de mettre, de donner un tout petit peu de capacité de compréhension premier degré aux ordinateurs, il y a récemment des chercheurs de l'Institut Allen aux États-Unis qui ont réussi à faire un programme qui a obtenu un grade au collège. Je sais plus à quoi, quatrième grade, machin comme ça, je sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est un programme qui comprend quand même pas ce dont il parle. C'est un programme bourré de connaissances et qui répond à des QCM. Donc en fait, il a la question et puis il a trois réponses possibles et puis il en choisit une au hasard. Et il le fait au radar en disant hein, en fonction du nombre de mots, des connexions, des machins, des bidules. Mais comme tous les programmes informatiques actuels, ce programme, il est quand il est dans une sorte de grosse base de connaissances, il est perdu. C'est-à-dire, il est comme dans un labyrinthe de connaissances, il sait pas où il est. Nous, notre conscience, ce qui fait qu'on comprend, c'est ça, c'est le fait que, où qu'on soit dans la connaissance, on n'est pas perdu. Même si ça nous intéresse pas et qu'on est dépassé, on sait qui on est, où on est, que de toute façon, ce sujet ne nous intéresse pas, etc.
À peu près, pas toujours. Daniel Gossens, d'ailleurs, c'est drôle puisque votre idée anti-spleen, c'est le développement d'une compréhension de ce que vous faites pour savoir si vous êtes un fou ou un génie. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui mieux ou moins bien à mesure que vous apprenez ce que vous faites ?
Bah, disons que en sciences humaines, on est tous des fous parce que le réel ne peut pas trancher, mais en sciences dures aussi, c'est ça qui m'a surpris. C'est quoi un fou dans la science? C'est quelqu'un qui s'entête, qui s'obstine quoi, à chercher dans un endroit sans savoir si ça conduit quelque part. Et donc, moi, j'en suis toujours là, quoi. Je suis un chercheur explorateur. J'ai toujours été ça, finalement. Et j'ai toujours pas réussi à démontrer que j'étais fou. Donc, pour l'instant, il y a encore de l'espoir.
Mais vous essayez?
J'essaye de, mais j'aimerais bien arriver au moins à des deux résultats. Soit, j'ai fait tout ça pour rien et je suis un fou. Soit, voilà, il y avait un petit résultat quand même, quoi.
Vous dites, Daniel Gossens, puisque dans votre travail de chercheur, vous faites de l'algorithmisation de l'algèbre, c'est ça?
Ouais, en tout cas, c'est un point de vue, ouais.
C'est un point de vue, mais vous dites que, finalement, que ce soit dans la bande dessinée ou dans l'intelligence artificielle, il s'agit d'une occupation intellectuelle commune que vous exprimez de deux façons différentes, avec la BD par la dérision, vous travaillez sur l'extrême pointe de l'intuition, et par l'informatique, c'est l'extrême pointe de la formalisation. On utilise presque plus d'intuition.
Presque plus du tout, une intuition. Ben, normalement, on n'a pas le droit, on aimerait bien que la machine aide l'intuition. Justement, là c'est l'extrême. On voudrait donner des capacités.
C'est Pygmalion, mais. Mais décevant, quoi.
Bon, déjà, c'est étonnant. J'avais dit un truc comme ça, la algorithmisation de l'algèbre, c'est
ouais,
ça?
C'est moi vous qui l'avez dit. Ça.
C'est possible, parce que c'est bien. C'est en fait, il s'agit de transformer des mathématiques, hein, des systèmes formels, des trucs comme ça, en algorithmes, c'est-à-dire en calcul, quoi. Hein, il s'agit d'automatiser complètement. C'est le dernier stade. Ceci dit, on peut pas être ambitieux du coup. C'est tellement spartiate, on a tellement plus rien à notre disposition. On peut pas, comme en sciences humaines, poser des concepts, les assembler et puis décrire des choses très ambitieuses. Là, on est vraiment dans la matière. Et donc, on est absolument pas ambitieux, quoi. On écrit des petits programmes, on les regarde fonctionner, on se rend compte tout le temps qu'ils sont extrêmement rigides. Et on continue à s'apercevoir et à approfondir le fait que nous, les humains, on est des acrobates absolument incroyables. Mais même tout petit, je veux dire, à 5 ans, un enfant, c'est un acrobate des concepts, de la connaissance absolument incroyable.
Mais ça, c'est plutôt bien pour l'ego humain, finalement. Ouais.
Si je pouvais rajouter juste un tout petit truc, c'est peut-être ça, c'est parlant. Les algorithmes, quand on les a définis, ils suivent des chemins, possiblement très formels, compliqués et tout, mais ils les suivent jusqu'au bout. Ils sortent pas de ces contraintes qu'on a mis. Nous, on est capable de se balader dans la connaissance et de s'arrêter où on veut, puis de repartir, puis d'aller à gauche, puis d'aller à droite, puis de... Cette capacité-là, qui a l'air pas intellectuelle du tout, c'est la plus difficile à modéliser, à comprendre. Et donc l'humour, oui. Hein, c'est ce que fait Gary Larson. Je veux dire, il cherche des choses totalement inattendues, des points de vue totalement inattendus dans des situations banales.
comme vous, Daniel Gossens.
Oui.
On va bavarder avec les fantômes de Michel Serrault et de Jean-Yann après un titre de la playlist France Inter, Kiko Di Nucci, Febbre Dorato.
Tava com a febre do rato e pediu pra descer. Da Via Parque Dom Pedro, Vila Curuçá. Cambaleou sem saber onde queria chegar. Em plena Celso Garcia vomitou. Queima de estoque falante veio lhe dizer. Um pandemônio na liquidação total. Foi levado sem saber onde iria chegar. E a correnteza de gente lhe arrastou. Foi lançado, empurrado, no tranco arremessado. Quando deu por si, tava em frente um salão. Uma dor de cabeça rasgou o seu juízo. E por cima do pingo estranho pôs a mão. Espinha, seu corpo tremeu. E uma mancha vermelha na face brotou. Ardeu no corpo febril, mas o suor congelou. Roubou a cena do culto na sessão. Soltou um grito de morte, o mundo calou. Duas feridas nasceram nas palmas das mãos. Um fiel esconjurou, um outro perdeu a fé, mas um terceiro chorou de compaixão. Tava cheio de cólera e bestialidade. Quando deu por si, tava em cima do pastor. Atacou o infeliz e fugiu pela avenida. Deu sinal e saltou pra dentro do busão. Parque Dom Pedro, Curuçá. Febre do rato, solidão. Febre do rato, contramão. Parque Dom Pedro.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Daniel Gossens et de Michel Serrault.
Oh, 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 quel poète dans sa tragique lucidité décrira enfin le mal dans son horreur. Car c'est une horreur. Tout ça, c'est une horreur. La tête, le bras, la jambe, c'est une horreur. Une jambe d'homme, c'est épouvantable. Bah, une jambe d'homme,
ah
non
oui, oui, ah bah oui.
C'est vrai. Et ça, un bras. C'est beau, ça, un bras. Ah ouais. Et ces torses sans mamelles. Ouais. C'est insupportable. Oh, atroce partage. Oh, infâme distribution. Seule la femme a tout reçu des dieux. Car la femme est la copie de l'homme. Mais nous n'en sommes que la caricature. Car nous, les hommes, nous sommes moches. Ah, ce qu'on est moche.
1982, 2h moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann. Daniel Gossens, vous avez choisi la scène dans laquelle Jules César, car il s'agit d'une parodie de Péplum, Jules César, interprété par Michel Serrault, fait une tirade sur la laideur de l'homme à Coluche, alias Bénur Marcel, garagiste pour char, qui se retrouve malgré lui représentant syndical face à l'armée romaine. Serrault rend tout drôle.
Ah oui, ah ouais. Serrault, c'est pareil, c'est un acrobate, lui. Il joue son rôle, comment dire. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ça, et je crois que c'est parce que c'est très casse-gueule. Je pense qu'on serait tous ridicules si on essayait de prendre sa suite, ou même de rejouer le même texte. Tout le monde serait ridicule. Et Serrault, où qu'il soit, dans La Cage aux Folles, dans ce film de Jean-Yann, c'est des films qui m'intéressent pas beaucoup, et Serrault dedans, c'est des petits bijoux. Par exemple, dans La Cage aux Folles, je sais que moi j'ai toujours des conflits avec des copains qui sont consternés de me voir aimer des films qui se moquent des homosexuels. Et quand je vois Serrault dans La Cage aux Folles, je vois pas une parodie homosexuelle, je vois quelqu'un qui imite des femmes. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai entendu une interview de Serrault qui disait qu'il avait pris modèle sur des femmes de sa famille, des mémés, des tantes, des choses comme ça, quoi. Et je confirme, parce que je me souviens, par exemple, dans La Cage aux Folles, il y a une scène où Serrault se met en colère. Et il se met en colère en essayant de retenir ses gros mots. « Ah, j'en ai. Ah, il faut voir ça. J'en ai. » Puis il finit par exploser. « Ras-le-bol, je fous le camp, etc. » Et ma mère faisait exactement comme ça. Donc quand j'ai vu Serrault faire ce numéro, c'était incroyable.
Oui, mais c'est vrai, parce qu'on se disait hors antenne, Daniel Gossens, qu'effectivement, un film comme ça, aujourd'hui, serait impossible à tourner.
Oui, évidemment.
Évidemment, ouais. Et à distribuer. Mais en fait, finalement, il y a quelque chose de cartoonesque dedans. On dirait un peu vos albums aussi, parce qu'il y a des clins d'œil à Astérix, il y a des détournements, il y a des anachronismes. Je sais pas, je pense à la phrase « garde, saisissez ces gardes » quand tous les gardes saisissent tous les gardes et que c'est vraiment le chaos. Il y a par exemple une pub pour Schlingus, le déodorant, on aurait pu retrouver ça dans un de vos albums.
Oui, ouais,
Michel Serrault qui dit « donnez-moi de la ciguë avec un peu de sucre », c'est très très Astérix,
oui.
C'est ça.
Oui, absolument. Mais moi je me rappelle que j'ai fait, quand il est mort, Serrault, j'étais en train de dessiner une histoire, et du coup j'ai mis un petit mot sur Serrault à la fin. Et c'était une histoire où Louis, mon personnage, c'est vraiment un hasard incroyable, jouait Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Et je pensais à Serrault tout le temps en faisant cette histoire. J'aurais adoré pouvoir écrire pour Serrault. J'aurais vraiment adoré qu'il aime, enfin qu'il ait envie, par exemple, de jouer des scènes que j'ai dessinées. Enfin bon, voilà quoi.
Daniel Gossens, on vous a demandé une citation consolatoire. C'est la première fois que je ne comprends pas une réponse. Je vous cite.
Ouais.
Je n'ai que des citations dérisoires qui font semblant d'être profondes. Exemple, le racisme, ça y en a pas bon, de Vincent Audiquet, honte sur lui. Et je n'en préfère aucune, mais elles ne sont pas faites pour être mises en exergue. Mais c'est un grand sujet de bavardage. Eh bien, bavardons, si vous le voulez bien, vous faites référence au statisticien et écrivain Vincent Audiquet, qui collabore à Flûte Glaciale, voilà. Et qui a signé des sketchs pour Groland.
Oui, absolument.
Et vous émettez une critique à son encontre, ou c'est de l'ironie?
Non, c'est évidemment, c'est de l'ironie.
Ah.
J'adore son sa citation. Mais justement, c'est une parodie de citation, hein. Le racisme, ça y en a pas bon. C'est pas très politiquement correct en ce moment, mais en fait, si, pour la grande majorité des gens, c'est rigolo. Et il y a, à mon avis, des mouvements minoritaires, revendicatifs, qui vont trouver que c'est de mauvais goût, ou je ne sais quoi.
Bah, Jean-Yann, il a quand même fait une revue anticléricale avec Ciné qui s'appelait J'y vas-ti quand ?
Oui.
C'est impossible aujourd'hui, à nouveau.
Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi...
Vous vous censurez, vous, Daniel Gossens ?
Oui, peut-être, ça peut arriver, quand je sens, pas vraiment non plus, quoi. Je me censure, moi, en voulant le faire, c'est-à-dire en trouvant qu'un truc est finalement pas très drôle, donc tant pis, je le jette.
Mais jamais parce que c'est politiquement incorrect.
Mais quand c'est quelque chose qui me fait vraiment rire, jamais. Ah ouais, non, si ça me fait vraiment rire. Si je suis pas sûr, dans le doute, je jette. Et pour les citations comme ça, en fait, moi, j'avais trouvé un critère qui marche pas sur tout, hein, mais pour dénicher les fausses profondeurs. Vous prenez une citation profonde et puis vous l'inversez. Et si c'est toujours profond, c'est que c'est une connerie.
Ah
exemple,
oui
exemple, pour aller vers les autres, il faut d'abord entrer en soi-même.
Oui.
Bon, alors ça fait très profond, on se dit, oui, effectivement.
Enfin, oui.
Ou l'inversé, ça donne, pour entrer en soi-même, il faut d'abord aller vers les autres.
Oui.
Et ben, c'est pareil, on trouve autant de raisons de trouver que la deuxième est profonde. Et si on veut les deux, alors on tourne en haut.
Donc ça annule la crédibilité de la citation.
Moi je pense, ouais. De toute façon, les citations, ça prend pas de risque, hein. C'est flou.
Pas toujours.
Bah, si, donnez-moi 100 000. Bon, j'en fais aussi en même temps.
Avoir commis tous les crimes, hormis celui d'être père, de surrang, c'est pas flou.
Répétez la question.
Avoir commis tous les crimes, ouais. Hormis celui d'être père.
Ah oui, hormis celui d'être père, ouais.
Voilà, il est plutôt franc du collier.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais enfin, en même temps, on voudrait qu'il développe ensuite. Et là,
avoir
il
commis
pâteau.
Tous les pères,
un peu comme le...
celui d'être crime. Donc ça marche. Selon votre critère, Daniel Gossens, la citation est profonde, puisque quand on l'inverse, ça ne fonctionne absolument pas.
Ah bon, c'est quoi l'inverse?
Je vous laisse le faire, parce que sinon je prends l'émission en otage.
D'accord.
Bon, il est temps de parler de musique.
Ouais.
Juste après, un standard velouté du dimanche, Etta James, I Just Want To Make Love To You.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Daniel Gossin, c'est la couleur bleue en musique, mais une java au lieu d'un blues. 1995, la Java bleue, titre de Fréhel, revisité par le guitariste et compositeur Roland Diens. Daniel Gossens, vous dites n'aimer que des chansons tristes ou alors des chansons arrangées à la guitare seule.
Oui, voilà, bah ça c'est une chanson pas triste, la Java bleue.
À Fréhel, souvent c'est quand même pas très joyeux.
Ouais, ouais, mais ça c'est la Java bleue. C'est le queue, etc. Donc c'est fait pour être chanté en se touchant les coudes et enfin bref.
Très contemporain alors, en se touchant les coudes.
Oui, effectivement. Et en fait, ce que j'adore là-dedans, c'est l'arrangement à la guitare. Donc en fait, la chanson est pas importante. Rolandien, ça a adapté des tonnes de chansons françaises à la guitare. Et c'est tous des bijoux. Je suis pas un bon guitariste, moi.
Mais vous jouez un peu de guitare.
Je joue un peu de guitare, ouais. Et je suis stupéfait, quoi, de la qualité de ce type, Roland Diens.
Alors justement, il a voyagé au Brésil, ça lui a inspiré la composition de plusieurs saudades, cette mélancolie douce, et c'est dans ce pays qu'on se rend pour votre antidote musical suivant, Daniel Gossens. Aquarela do Brasil par Carlos Barbosa Lima.
C'est pareil, c'est un arrangement. Il y a des tonnes d'arrangements de Aquarela do Brasil par des guitaristes différents, et puis il y a aussi orchestré par des groupes entiers, etc. Quoi. Je me rends compte que je suis attiré, moi, par des virtuoses qui. Des individus seuls, isolés, quoi. Et beaucoup se perd, je trouve, ensuite, quand il y a tout un orchestre. Ça fait une musique agréable pour l'ambiance. Et en fait, ces musiques-là, moi, je scrute, j'adore les finesses absolues que font ces orfèvres de la guitare.
Comme si on mettait trop d'ingrédients dans un plat, finalement, et qu'il n'y avait plus cette finesse.
J'ai l'impression plutôt que le cerveau de l'individu est incroyablement plus capable quelque organisation sociale que ce soit. C'est pour ça qu'on a des goulots d'étranglement individuels pour prendre des décisions. Je veux dire, on a un seul président de la République. On pourrait dire pourquoi on ferait pas une sorte de processus de vote où tout le monde dit son avis, etc. Non, c'est pas possible. À un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un individu qui maîtrise un minimum la cohérence des décisions successives à prendre. On a ce genre de goulot d'étranglement. Peut-être qu'un jour... bon là, je vais être sur la comète, tant pis. Hein. On va inventer un cerveau collectif qui permettra de dépasser ce goulot d'étranglement. Pour l'instant, non. Hein. Alors, dans la musique, j'adore, moi, les finesses d'individus. Et je suis moins fan quand il y a tout un orchestre. On peut pas diriger un orchestre avec un cerveau unique. Un orchestre n'a pas un cerveau unique. Hein. C'est des musiciens rassemblés. Et bon, c'est un peu lourd et c'est pour l'ambiance, mais pour moi, il me manque les finesses des guitaristes, des pianistes et tout ça.
Bon, en tout cas, entre goulot d'étranglement, la situation actuelle, et cerveau collectif, on préfère quand même cerveau collectif. Ça a l'air plus chouette.
Oui, c'est vrai, oui. Non, ça fait peur.
Ah ouais, ça fait peur, mais goulot d'étranglement, ça fait peur aussi.
Ouais, mais non, mais cerveau collectif, ça fait peur à tout le monde. On se dit, mais alors, on va être remplacé, il va y avoir des intelligences artificielles.
Oui, mais on leur racontera des blagues et on mettra des coussins péteurs on les démasquera.
Exactement.
Ce qu'on entend sur la montagne, extrait de la symphonie en ré mineur de César Franck, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, tout le monde s'appelle Franck, pour introduire l'activité qui vous grise, Daniel Gossens, la randonnée en montagne.
Ouais.
Alors, ça demande beaucoup d'endurance, ça, je vous admire. Est-ce que vous dormez sous une tente? Vous avez un canif? Vous vous confrontez aux éléments?
Quand j'étais jeune, je faisais ça, ouais. J'avais entrepris une traversée des Pyrénées par bout, d'est en ouest, avec tente, et puis puis boîte de conserve. On redescendait de temps à autre dans la vallée pour aller se ravitailler, puis on remontait sur le HR, le chemin de haute randonnée. Voilà. Et j'avais pas le vertige à l'époque. Je suis passé par des passages vertigineux. Je suis retourné par la suite et j'ai pas pu les faire parce que j'ai chopé un vertige depuis.
Ah oui, à quel âge?
Eh ben bon, le vertige j'avais pas donc quand j'avais entre 20 et 30 ans, et là maintenant à partir de 50 ans, je sais pas pourquoi, hein, peut-être la vue baisse, peut-être qu'on est moins sûr de ses gestes, on se rend plus compte qu'on va peut-être tomber.
Oui.
Voilà quoi.
C'est donc, ce truc dont on a entendu parler qui s'appelle la mort.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
J'ai une question bonus, Daniel, ouais. Gossens. Dans une interview, vous avouez un tempérament craintif mêlé d'excitation.
Oui.
J'ai l'impression que ça sauve tout. Cette excitation qui fait qu'on passe au-delà de la peur. Là, je pense à Dune, évidemment, avec cette fameuse prière contre la peur, cette conjuration de la peur. Ouais. Mais quand on a peur, je le sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur aussi, eh ben, vous, votre excitation, Daniel Gossens, elle vous fait quand même aller au-delà. Elle vous fait quand même vivre, elle vous fait produire des choses, créer, penser, enquêter.
Oui, c'est, si j'avais pas ça, effectivement, je serais probablement très inhibé, enfermé dans une coquille et j'en sortirai pas. Donc oui, j'ai toujours envie de prendre des risques. Et donc c'est ce qui transparaît dans le personnage de Louis, le petit qui me ressemble pour cet aspect-là, quoi. Et le grand Georges, ça serait plutôt ma méfiance, ma précaution.
Le garde-fou.
Ouais.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission,
merci
Daniel Gossens. Toute votre œuvre est éditée et régulièrement rééditée par Fluide Glacial. Voyage au bout de la Lune, l'encyclopédie des bébés, Sacré Comique, Combat et toutes les réflexions de Georges et Louis peuvent donc être commandées à vos libraires et récupérées furtivement avec masque, gel et chapeau anti-réel. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme à l'aplomb effervescent d'un tiroir d'artifice vous retrouve dimanche prochain à 10h10.